Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous parlons du développement du e-learning en Afrique. Comment ce mode d'apprentissage progresse-t-il et quel est son potentiel économique? Oussama Smili, directeur général d'Ideo Factory, est notre invité et il répondra à toutes ces questions. Et nous irons en Côte d'Ivoire, c'est pour parler du secteur de l'immobilier et surtout de la tokenisation immobilière. Et j'imagine que c'est une expression qui n'est pas familière aux profanes comme moi, mais on en parlera. C'est l'occasion d'en savoir davantage et ce sera dans le Zoom Express. Et notre destination éco de la semaine nous mène en République démocratique du Congo et ce sera avec l'analyse hebdomadaire de Idriss Lingé, directeur de rédaction de Media Mania. Tels sont les principaux sujets de notre émission. Tout de suite, le développement.
Zoom Express.
Direction la Côte d'Ivoire pour parler du secteur immobilier et surtout de la tokenisation immobilière. Et j'imagine que c'est une expression qui n'est pas familière aux profanes comme moi et c'est l'occasion d'en savoir davantage. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Madame Sanou Diané Inès qui nous rejoint depuis la capitale ivoirienne. Bonjour à vous, Sanou Diané Inès.
Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs. C'est un plaisir d'être avec vous.
Plaisir partagé et je rappelle que vous êtes donc la CEO de Solu Invest, donc vous êtes basé à Abidjan, mais aussi vous êtes une ex, entre guillemets, de la diaspora, hein, une ancienne membre donc de la diaspora africaine. Et on en parle énormément sur la contribution de la diaspora africaine dans le développement économique de l'Afrique. Et quelqu'un qui connaît bien cette diaspora, c'est bien évidemment Moustapha El Bouri, qui est également avec nous. Bonjour à vous, Moustapha El Bouri.
Bonjour.
Alors, je rappelle que vous êtes le directeur général de la plateforme Best Afrique qui connecte donc les diasporas africaines entre elles. Alors, aujourd'hui, on parle de tokenisation immobilière. Alors, Sanou Diané Inès, qu'est-ce qu'on entend par tokenisation immobilière?
Merci infiniment de me donner l'opportunité de parler de ce nouveau mot, grand mot pour certains. Alors, vous savez tous qu'en tant que diaspora, pour rien, comme je pourrais le dire, c'est important pour nous d'apporter notre contribution sur le continent en y investissant. Et le secteur immobilier est le secteur vraiment qui intéresse la majorité des gens. Eh bien, la tokenisation, tout simplement, c'est un processus qui consiste à transformer des actifs réels comme l'immobilier, par exemple. Donc, transformer, je vais prendre un cas simple, des résidences meublées en token numérique sur une blockchain. Donc, si vous voulez, ces tokens vont représenter une fraction de la propriété de l'immobilier, et ce qui va permettre, bien sûr, à plusieurs investisseurs d'acheter des parts d'un bien immobilier comme s'ils achetaient des actions en bourse. Donc, c'est le système, le procédé qui permet à tout le monde d'investir désormais dans l'immobilier de façon transparente, mais surtout de façon sécurisée.
Investir donc dans l'immobilier de façon transparente et sécurisée. Alors, quelle est la rentabilité de cette tokenisation immobilière?
Alors, lorsque vous investissez via une solution de tokenisation immobilière, vous pouvez avoir droit à deux formules de revenus. D'abord, premièrement, le fait de tokeniser fait que tous les petits budgets peuvent investir désormais dans l'immobilier. On sait que beaucoup de personnes sont très intéressées par ce secteur, mais n'ont pas forcément beaucoup d'argent, des centaines de milliers d'euros. Eh bien, grâce à la tokenisation, à partir d'un petit billet, même avec 100 euros, on peut investir dans l'immobilier et détenir des parts numériques. Quels sont les avantages qu'on peut y avoir? Eh bien, le premier avantage déjà, c'est que selon le système de tokenisation qui est choisi, l'investisseur va recevoir des revenus résiduels. Donc, sur une périodicité bien donnée et dans une durée bien donnée, si on prend le cas de notre projet, par exemple, tous les trimestres, ils reçoivent 10% du montant de leur investissement comme revenus résiduels pendant 5 ans. Et au bout des 5 années, ils récupèrent le montant de leur investissement initial plus une plus-value de 8%. Donc, c'est un système d'investissement qui est très intéressant aujourd'hui pour tous ceux qui sont dans la diaspora et pour toute personne qui a l'intention d'investir dans l'immobilier.
En tout cas, je pense que c'est très important, sachant que l'immobilier est le principal secteur qui capte les investissements des membres de la diaspora. Alors, en parlant de cette diaspora, Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique qui connecte donc les diasporas africaines, parlez-nous justement de l'intérêt de ce secteur immobilier pour les expatriés africains à travers le monde.
Oui, Omar, comme l'a précisé Diane Inès, en fait, c'est ce système en fait qui est possible grâce au système de blockchain aujourd'hui, hein, donc des plateformes qui utilisent la blockchain et qui sont des systèmes vraiment, comme on l'a dit, très sécurisés, très transparents. C'est ce que recherche tout investisseur. Enfin, pour moi, il y a toute la diaspora, mais il y a aussi, ça peut intéresser toute personne qui vit aussi sur le continent, qui veut investir des petits montants. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens veulent investir dans l'immobilier, mais n'ont pas forcément les moyens de le faire. Ça coûte de l'argent. C'est acheter un appartement, une maison, c'est très coûteux. Donc, le fait de tokeniser et de rendre ça en petits montants, ça ouvre vraiment l'investissement à un grand nombre de personnes. Et bien entendu, la diaspora, ça leur permet aussi d'investir à distance, de suivre aussi leur investissement parce que c'est transparent, c'est sécurisé. On peut suivre l'investissement et avoir des revenus qui sont vraiment assez importants de façon très régulière.
Alors, Sanou, Diane et Inès, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des projets concrets à travers lesquels on a investi via cette tokenisation et qui a permis aux miseurs ou bien à ceux qui ont investi leur argent d'avoir accès à l'immobilier?
Alors, merci pour cette excellente question. Jusqu'à aujourd'hui, la tokenisation est restée l'apanage des Américains. D'ailleurs, cela a commencé aux États-Unis, dans tout ce qui est real estate, où on a assez de plateformes de tokenisation qui sont très bien connues. Et en Afrique, ce système est resté encore méconnu jusqu'à présent, comme le disait Moustapha, parce que c'est un système qui utilise la blockchain comme système sécurisé. Alors, avec mon entreprise Solu Invest, on a emmené pour la première fois la tokenisation en Côte d'Ivoire et nous l'avons appliquée pour des résidences meublées de luxe dans la ville d'Assigny en Côte d'Ivoire. C'est une ville balnéaire qui regroupe, si vous voulez, la crème des crèmes, une très belle ville. Donc, nous avons envoyé la tokenisation pour un premier projet. Donc, c'est le premier projet de tokenisation immobilière en Côte d'Ivoire, je dirais même en Afrique francophone, sur des résidences meublées de luxe. Alors, il faut savoir que ce projet est à son début. Et comme vous l'avez très bien souligné, la tokenisation étant encore un concept nouveau dans la tête des Africains, nous sommes à la phase de l'acculturation, nous sommes à la phase de l'information. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que nous avons le plaisir d'être sur vos antennes aujourd'hui. Et beaucoup de personnes s'y intéressent. Nous organisons des webinaires chaque semaine pour expliquer le concept. Nous faisons des démos pour que les gens voient comment accéder à la plateforme, avoir toutes les informations sécurisées, les contrats intelligents, les informations sur le projet. Et j'avoue que je suis moi-même surprise et émerveillée par l'engouement que cela suscite auprès des investisseurs africains.
Intéressant. Donc, alors, une dernière question à Moustapha El Bouri. Moustapha El Bouri, donc finalement, les technologies, les TIC sont en train d'accélérer peut-être le rythme des investissements de la diaspora en Afrique.
Oui, tout à fait, Omar. Comme je disais, en fait, le système de blockchain permet surtout l'accès, parce qu'avant, une personne qui voulait investir dans l'immobilier ou dans un autre domaine, fallait se déplacer, il fallait aller sur place, il fallait parler à des agents immobiliers, trouver le bon bien. C'est tout un process. Aujourd'hui, on peut faire ça à distance sans même se déplacer. On peut même investir dans un pays, quelqu'un, par exemple, un Marocain, peut investir sur Abidjan, sans forcément aller à Abidjan. Voilà. Mmh, tout est sécurisé. Ça permet l'ouverture. Mmh. Et juste une chose, et je pense qu'on pourra aussi le généraliser sur d'autres domaines dans le futur. Dans les business, par exemple, dans d'autres domaines. Voilà.
En tout cas, c'est à suivre. Merci à vous deux, à Sanou Diané Inès, qui est donc la CEO de Solu Invest, donc basée en Côte d'Ivoire, ainsi qu'à vous, Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique. Merci d'avoir été avec nous dans Coémergence.
Merci, à très bientôt.
Coémergence, l'invité.
Il s'appelle Oussama Esmili et il est le directeur général d'Ideo Factory basée à Casablanca. Ideo Factory est une entreprise marocaine qui donc est active dans le domaine du e-learning. Et avec justement Oussama, nous allons parler du développement du e-learning en Afrique. Comment ce mode d'apprentissage progresse-t-il et quel est son potentiel économique? Nous allons donc avoir des réponses à toutes ces questions. Bonjour à vous, Oussama Esmili.
Bonjour, Omar Baldé. Merci beaucoup de me recevoir.
C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans Coémergence. Alors, avant de vous poser une question, vous vous êtes distingué en tant qu'entreprise marocaine sur le plan international en remportant un prix. Parlez-nous-en d'abord.
Alors effectivement, on a eu le grand plaisir et privilège d'être les heureux, on va dire, récompensés d'un prix aux États-Unis, au Brandon Hall Awards. Ce sont des awards qui sont donnés dans le domaine du capital humain. On les appelle un peu les Oscars du capital humain. Et cette année, effectivement, on a eu une médaille d'argent dans une catégorie en lien avec les technologies qu'on appelle Learning Management System, donc des technologies de gestion de plateforme. Mmh. Donc c'est un prix qui nous fait plaisir, qui nous rend fiers aussi de représenter et le Maroc et l'Afrique, puisqu'on est la seule entreprise africaine à avoir, on va dire, émergé dans cette compétition. Mmh. Et donc on dédie cela à tous ces ingénieurs marocains et africains qui œuvrent au quotidien au développement de ces solutions.
Excellent. Alors, cela dit, le e-learning, peut-être que beaucoup... c'est connu quand même. Je croyais que beaucoup ne connaissent pas, mais quand même, cela fait quand même pas mal d'années. Avec le Covid, on a vu quand même comment cela s'est développé. Parlez-nous du e-learning en deux phrases, si vous aviez à résumer.
Si j'ai à résumer, je dirais que le e-learning, c'est la formation en ligne qui permet à un apprenant de se former en levant la contrainte de l'espace et du temps aussi, puisque il peut accéder à un contenu qui a été déjà digitalisé pour lui, déjà développé, et il peut le suivre tranquillement à son rythme pour ensuite éventuellement avoir une certification ou en tout cas un diplôme qui atteste sa montée en compétence sur un sujet donné.
Mmh. Alors, en Afrique maintenant, comment se développe le e-learning?
Alors, c'est un sujet évidemment qui est très intéressant pour notre continent, puisque depuis quand même de nombreuses années, et bien avant le Covid d'ailleurs, les premières grandes initiatives dans le domaine du e-learning ont démarré en Afrique au début des années 2000. Pourquoi ? Parce qu'on a des sujets, des problématiques qui sont réelles. On a une jeunesse très importante, on a des problèmes d'infrastructure, parfois de financement, d'accès à l'enseignement. Et donc évidemment, le e-learning est une des réponses possibles et pas mal d'initiatives ont été mises en place pour diversifier les modes d'apprentissage et offrir, que ce soit aux écoliers, aux étudiants ou même aux collaborateurs des entreprises, des alternatives à la formation traditionnelle.
Mmh. Alors, sur le plan économique, parce que dans Coémergence, on a toujours cette approche économique-là, on imagine que cela permet aux entreprises de gagner en termes d'efficacité. Quel est aujourd'hui le potentiel économique de ces activités-là?
Écoutez, le e-learning évolue de manière très rapide. En Afrique, on estime à peu près un taux de croissance entre 15 et 20% annuellement. Mais il est différencié en fonction des pays et aussi des régions. Si je veux schématiser, je dirais que en Afrique du Nord, on est plutôt dans une logique B2B, au sens où ce sont plutôt des solutions pour les entreprises, les administrations publiques, qui ont été développés. Et c'est vrai que c'est là, essentiellement d'ailleurs au Maroc, où nous avons le plus d'avancées dans le domaine du e-learning pour la formation continue des collaborateurs. Mais en Afrique, on va dire, alors je vais parler de deux régions que je connais bien pour les avoir visitées à plusieurs reprises et puis aussi avoir des collaborations sur place. D'abord l'Afrique de l'Est, surtout le Kenya. Vous savez que c'est un pays qui est très dynamique dans le domaine technologique, qui a beaucoup avancé aussi sur tout ce qui est mobile. Et donc, en l'occurrence, on a une forme de spécialisation très très tôt, depuis une quinzaine d'années, de start-up, d'entreprises qui ont développé des solutions pour accompagner en ligne des écoliers. Donc, c'est essentiellement l'éducation de base qui a été valorisée. Je pense à un projet qui s'appelle ENESA Éducation au Kenya, qui a très très bien marché, qui permet de former des millions d'écoliers en milieu défavorisé. Donc ça, c'est un peu l'Afrique de l'Est, c'est plutôt l'éducation de base. Mmh. En Afrique de l'Ouest, de l'autre côté, pour un pays que vous connaissez très bien, donc le Sénégal, vous savez qu'il y a bientôt 20 ans, on a mis en place une université virtuelle, qui est quand même une initiative très précoce, pour régler le problème de la massification de l'accès universitaire au Sénégal.
Mmh. Alors, juste pour, vu le temps qui nous est imparti, alors, pour rester en termes dans le business toujours du e-learning, est-ce qu'aujourd'hui, des acteurs africains qui investissent ce domaine d'activité?
Alors oui, en fait, on a deux catégories. Il y a les startups effectivement qui œuvrent essentiellement dans le domaine du B2C, qui vont développer des solutions, notamment de soutien. Il y a beaucoup, on voit de plus en plus d'entreprises qui développent des solutions de soutien scolaire, notamment en maths, en langue, etc., qui vont donc accompagner soit des jeunes qui sont en train de passer des examens, bac, préparer des concours d'entrée à des écoles. Donc, on va avoir pas mal de structures au Maroc et ailleurs qui sont en train de mettre en place ce genre de dispositif. Mmh. Donc, ça, c'est d'un côté. Et puis, on a des structures comme Ideo Factory, donc, qui œuvrent plutôt dans le domaine du e-learning au niveau B2B et qui développe des solutions plus orientées grandes entreprises, administrations qui sont en train de... Donc c'est là où nous voyons en fait dans ces deux domaines l'émergence d'entreprises africaines qui proposent des solutions innovantes. Très bien. Alors, pour le marché.
Alors, une dernière question, Oussama Ismili. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Ideo Factory, basé à Casablanca et donc actif dans plusieurs pays du continent. Alors, qu'en est-il des compétences africaines dans ce domaine-là?
Alors, les compétences...
En termes de capital humain.
Oui. Alors, en termes de capital humain, pour pouvoir mettre en place une solution e-learning, il faut deux... on va dire, catégorie de compétences. C'est d'abord tout ce qui est technologique, parce qu'il y a un contenant à la base, c'est une plateforme. Donc effectivement, on a besoin d'avoir des ressources bien formées. Et alhamdoulilah, au niveau, en tout cas, marocain, et même notamment dans un pays que je connais bien, le Sénégal et la Côte d'Ivoire aussi, on a quand même une base assez riche d'ingénieurs qui sont... innovants, bien formés, qui sont capables d'accompagner ces velléités-là. Donc, c'est très rassurant pour nous. Sur l'autre partie, c'est le développement de contenu. Mmh. Et là, on a besoin essentiellement de pédagogues, de pédagogues du digital, de personnes qui ont la capacité à penser, concevoir des modules e-learning. Mmh. Et peut-être que c'est un peu moins évident parce que ça suppose des compétences transverses que l'on n'a pas forcément. Donc, c'est peut-être là où l'on doit le plus investir, c'est de former des pédagogues spécialisés dans le domaine du digital, capables d'accompagner la digitalisation de contenu.
Merci à vous, Oussama Ismili. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Ideo Factory. Merci, ce fut un plaisir de vous avoir dans Coémergence.
C'est moi qui vous remercie, Omar Baldé.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Destination Éco.
Et aujourd'hui, nous prenons la direction de la République démocratique du Congo avec Idriss Lingé qui nous parle des opportunités d'investissement dans ce vaste pays du continent Direction donc la République démocratique du Congo avec Idriss Lingé. Bonjour à vous Idriss Lingé.
Bonjour Omar, bonjour à tous les auditeurs de Médias Radio.
Alors Idriss Lingé qui parle donc de ses opportunités, parle aussi normalement des possibilités pour les hommes d'affaires africains d'y investir, notamment les hommes d'affaires marocains. Et on voit que ces derniers temps, ça intéresse énormément donc, les investisseurs marocains.
La République démocratique du Congo est souvent qualifiée de scandale géologique en raison de l'abondance de ses ressources minières, notamment le cuivre, le cobalt, l'or, le diamant, le coltan. Ces minéraux sont essentiels pour les technologies modernes pour lesquelles le Maroc est très en avance, notamment avec la technologie du solaire, en particulier dans le cadre de la transition énergétique mondiale. Le gouvernement congolais encourage activement les investissements dans le secteur minier en mettant l'accent sur la transformation locale des matières premières pour maximiser la valeur ajoutée. Ça, c'est très important. Si aujourd'hui, on note une grande présence chinoise dans l'extraction des minéraux, notamment du cuivre et du cobalt, il y a une composante transformation locale sur lesquelles il y a encore de vastes opportunités parce que le gouvernement local n'a pas forcément toujours les moyens de les mettre en œuvre. Aujourd'hui, le pays est encore en train de travailler sur la mise en place d'une usine de transformation de lithium en batterie. C'est des domaines où des partenaires internationaux pourraient intervenir. La RDC, c'est aussi le pays des vastes opportunités agricoles. On estime que les terres cultivables de la RDC sont presque aussi grandes que la France et la Belgique réunies. Le gouvernement aussi travaille beaucoup sur la réforme du climat des affaires. Le pays a historiquement été toujours considéré comme un pays corrompu, mais progressivement, malgré les défis politiques, malgré les défis sociaux, malgré des défis liés parfois à la compétence, le pays continue d'avancer, de consolider des acquis au fil du temps et de devenir un tout petit peu ouvert à ceux qui veulent passer, faire des investissements. Des défis existent, je l'ai dit, il y a des défis de compétences, il y a surtout le défi sécuritaire, mais en réalité, même le défi sécuritaire est assez contenu. Il est situé vraiment dans la partie nord-est et tout le reste du pays reste quand même très ouvert avec des besoins notamment en matière agricole, en matière de construction des routes, en matière de télécom. Et les 129 millions d'habitants de ce pays attendent juste que des investisseurs qui sont concentrés sur le développement puissent arriver. Donc voilà pour la RDC et on se retrouve la prochaine pour notre pays.
Merci à vous Idriss Lingé, directeur des rédactions de Media Mania qui édite entre autres l'agence panafricaine Ecofin. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Média et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah. Et je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence à tout instant sur notre plateforme Média Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles.